C'est quoi ce petit sourire ?
Je viens de raccrocher avec mon conseiller Carac.
Pour ton plan d'épargne retraite ?
J'ai fait le point sur mes placements. À la Carac, ils ont un fonds en euros parmi les plus performants du marché, figure-toi.
Et c'est avantageux fiscalement ?
Oui, je peux réduire le montant de mes impôts et je vais avoir une meilleure retraite.
Top !
Et la Carac ne me prend aucun frais sur mes versements. 0%. À la Carac, on se bat pour vous. Retrouvez toutes nos conditions générales sur carac.fr. Tout investissement présente un risque en perte de capital. La Carac, mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
On les connaît absolument par cœur, ces premières mesures de la plus célèbre de toutes les symphonies, bien entendu. Beethoven avait une explication à propos de ces quatre coups de boutoir. Il disait « Ainsi le destin vient frapper à notre porte ». La vérité, c'est que avec Gerny, son grand ami Gerny, qui nous a tous fait souffrir quand on a fait nos débuts au piano, n'est-ce pas, le maître avait confié qu'en vérité, cette idée, cette idée-là, lui était venue en écoutant un oiseau, un bruant jaune, alors qu'il était en train de se promener dans les jardins du Prater à Vienne. Oh, je pense qu'on va préférer l'idée du destin qui frappe à la porte. La création du chef-d'œuvre a eu lieu le 22 décembre 1808 au Theater an der Wien dans le cadre d'un concert qui était totalement dédié à Beethoven. Vous imaginez, entre parenthèses, le programme de ce concert. Pour commencer, on a joué la sixième, la pastorale, qui est tout à fait le contraire de la cinquième et qui a été pourtant composée en même temps. C'est une musique tout à fait bucolique, charmante, comme ça, la pastorale. Bon, il y a l'orage, me direz-vous. C'est l'opposé de cette dramatique, de cette rythmique cinquième symphonie qui était donc donnée ensuite. On avait dans le même concert donné l'air A perfido, des extraits de la messe en ut, le troisième concerto pour piano. Vous imaginez bien, en tout cas, c'est la cinquième symphonie qui en deuxième partie s'est taillée la part du lion, bien entendu. Beethoven était là pour ce grand concert de Noël 1808 à Vienne. La qualité de la prestation a laissé à désirer au moment des répétitions. Et Beethoven, vous savez, ce n'est pas un homme facile, il s'est carrément mis l'orchestre à dos, si bien que les musiciens ont exigé qu'il quitte la salle pour la suite des répétitions. C'était plus possible, on ne pouvait pas répéter s'il nous interrompait comme ça toutes les trois mesures. Beethoven a été d'autant plus contrarié que dans le couloir où on l'avait installé, où on l'avait relégué, il n'entendait pas l'orchestre. N'oubliez pas qu'il était déjà très, très handicapé, il n'entendait pas tout simplement. Le chef d'orchestre, c'était Seyfried, s'est contenté de venir consulter de temps en temps le compositeur. Et il semble bien qu'au moment de la création, ce soit Beethoven lui-même qui se soit installé au pupitre.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Après ça, l'œuvre a été jouée à Leipzig en 1810, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann dans l'Allgemeine Musikalische Zeitung, la principale gazette musicale de l'époque, décrit la nouvelle symphonie comme une idée de génie, fruit d'une profonde réflexion portant le contenu romantique de la musique au plus haut degré de son expression. Voilà bien la façon dont on parlait au début du 19e siècle de cette musique qu'on oserait encore qualifié de romantique, et pourtant. Le compositeur Louis Spohr, en revanche, a émis un avis nettement plus mitigé. Il avait entendu la symphonie à Munich en 1815, lui. Il estime que, je cite, « malgré tous ces beaux passages, elle ne forme pas un ensemble classique ». Et la fameuse phrase d'ouverture, là, je cite encore, « laisse à désirer quant à la dignité indispensable à l'ouverture d'une symphonie ». On a envie de dire « rentrez chez vous, monsieur, et occupez-vous d'autres choses ». Comme toujours chez Beethoven, la période de gestation de l'œuvre a été très longue. Les premières idées sont apparues dès 1804, on voit ça dans des carnets. Alors il y a d'autres ébauches, notamment des ébauches qui devaient déboucher sur le quatrième concerto pour piano. D'autres notes sont également disponibles à la fin des carnets de la troisième symphonie, la symphonie héroïque, qui a été jouée pour la première fois en 1805. Cette symphonie est deux fois plus longue que les grandes symphonies de Haydn ou de Mozart, hein, et elle a eu, sur la musique de l'époque, un impact considérable. Elle a révélé cette espèce de dynamisme révolutionnaire qui allait faire la célébrité de Beethoven. Il est probable que la cinquième ait été conçue à l'origine en tant que prolongement de la symphonie héroïque. Ça devait être un deuxième volet, si vous voulez. Sauf que Beethoven, à l'époque, vivait cette relation troublée avec la comtesse de Brunswick, Thérèse de Brunswick, qui était son élève. Vous savez, depuis des années, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça. Durant l'année 1806, il travaille à sa quatrième symphonie, qui est d'une certaine légèreté à côté du reste, et qui reflète des dispositions plus joyeuses, conformes à ce qu'il est en train de vivre dans sa vie privée, finalement. Et puis, il se remet au travail en 1807, il achève la cinquième à la fin de cette année-là, ou au début de 1808, et puis, pour le résultat final, il faudra attendre un petit peu. La cinquième a l'air de se développer d'une façon très, très spontanée. On sait pourtant que l'ouverture, hein, ces coups de boutoir, cette ouverture a connu plusieurs métamorphoses. Elle a changé avant de devenir la phrase musicale la plus célèbre de l'Occident. Le génie de Beethoven est d'une telle force dans son originalité, qu'on a tendance à oublier l'influence de ses prédécesseurs sur ce qu'il est en train d'écrire. Il ne faut quand même pas oublier, bien sûr, toutes les symphonies de Haydn, hein, 104 symphonies de 1755 à 1795. On était donc complètement rodé à l'exercice, si je puis dire. Ça a complètement fait évoluer le genre. Au départ, c'était des sérénades, hein, des pièces qui s'enchaînaient, des pièces dansantes. Et puis, peu à peu, la symphonie est devenue une grande composition poétique, une œuvre complexe, une œuvre organique, en quelque sorte l'œuvre maîtresse de la musique. Dans sa cinquième, Beethoven ne rompt pas vraiment avec les anciens modèles. Non seulement la forme du premier mouvement est assez conventionnelle, finalement, dans la mesure où on trouve des précédents chez Haydn, chez Mozart, mais comme dans les grandes compositions classiques, on peut dire que ce morceau-là est équilibré dans sa division. Toujours quatre parties égales. Une exposition, c'est l'ouverture avec les thèmes musicaux qui vont être présentés. Un développement dans lequel ces thèmes sont explorés, un peu maniés, manipulés, triturés. N'oubliez pas que c'est Beethoven qui est à la partition et qu'il va donc s'amuser avec tout ça. Ensuite, une réexposition qui doit être une variation sur l'ouverture. Bon, là, c'est pas tout à fait le cas avec cette coda, la conclusion. La coda en italien, c'est la queue, hein, c'est la fin, si vous voulez. Bref, plutôt que la composition elle-même, ce qu'il y a de neuf, ce qu'il y a d'original dans ce que nous propose Beethoven avec sa cinquième symphonie, c'est tout simplement ce que j'appellerais la pulsation. L'indépassable Carlos Kleiber à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne pour cet Allegro con brio, ce premier mouvement de la 5e symphonie de Ludwig van Beethoven. Évidemment, voyez la différence en 20 ans, puisque cet enregistrement date de 1974. La différence avec ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'était notre indicatif qui était déjà interprété par le Philharmonique de Vienne, mais sous la direction de Wilhelm Furtwängler. Il n'y a que sur Radio Classique qu'on trouve des indicatifs dirigés par Furtwängler.
Vous écoutez Radio Classique,
Beethoven, on l'a dit, avait ce caractère un peu emporté, imprévisible. Hein. Haydn a même raconté un jour qu'il avait l'impression d'avoir devant lui un homme possédant plusieurs têtes, plusieurs cœurs et plusieurs âmes. Il y a une volonté de vivre, il y a une énergie, un tumulte intérieur chez cet homme. Et, disons-le, un besoin d'amour absolument dévorant qui, en échange, en retour, réclamait de la loyauté. Beethoven est également très sensible au manque d'égard qu'on pourrait lui manifester, qu'il soit réel ou imaginaire. Hein, d'ailleurs, il est assez critique aussi vis-à-vis des autres. Et puis, il y a cette surdité qui exacerbe un sentiment de frustration déjà latent. Ses rapports sont difficiles avec les gens et il se sent rejeté. J'ai eu l'occasion déjà de vous lire ce testament d'Heiligenstadt hein, qui a été rédigé en 1802. 1802, ça veut dire quand même 6 ans avant la création de la cinquième, et qu'on a retrouvé après sa mort seulement, et qui montre à quel point cet homme-là se sentait enfermé dans cette surdité, coupé du monde. C'est une tristesse infinie, d'une certaine manière. Son style reflète la difficulté qu'il a à établir des relations intimes. Karl Czerny pense qu'il n'était pas fait pour la vie domestique, et pas mal de ses amis ont attesté l'espèce d'état de confusion qu'il y avait chez lui. Il y en a un qui nous dit « Un désordre indescriptible régnait partout, sur le piano, la poussière, la saleté luttait avec les partitions. Dessous traînait encore un pot de chambre, des chaises étaient couvertes de vêtements et d'assiettes contenant des reliefs de ses repas. » On imagine cet artiste qui vit dans un désordre aussi extérieur que l'intérieur est au contraire sans doute ordonné. L'humour de Beethoven, son goût des calembours l'ont poussé à écrire pour le compositeur Hummel et pour son ami le baron Zmeskal von Domanovex, une pièce intitulée « Duo pour deux paires de lunettes obligées ». Et oui, en fait, ils avaient besoin de lunettes pour déchiffrer la musique, les deux personnes en question. Beethoven fait des plaisanteries, c'est vrai, mais il n'est pas toujours beau joueur quand les plaisanteries en question se retournent contre lui, disons-le. Un jour, il joue son nouvel andante favori devant un de ses amis, Ferdinand Ries. Ries se fait porter chez le prince Lichnowsky et transcrit l'œuvre de mémoire. Et le lendemain, le prince se rend chez Beethoven et lui dit « Ah, mon cher ami, j'ai composé pendant la nuit quelque chose qui va vous plaire. » Ils se mettent à jouer ça devant Beethoven, qui normalement devrait éclater de rire. Ben non, pas du tout. Beethoven est furieux. Et d'ailleurs, il ne jouera plus jamais quoi que ce soit devant Ries, vous voyez. Il n'a pas d'ailleurs de considération pour le rang. Hein. Là, en l'occurrence, c'était le prince Lichnowsky. C'est avec lui qu'il s'était si gravement fâché, vous savez. Un de ses élèves, le jeune archiduc Rodolphe, va recevoir, comme les autres, des coups sur les doigts. C'est pas parce qu'il est prince, ça ne change rien. Et il restera quand même le bienfaiteur du compositeur jusqu'à sa mort. Et le prince Lobkowitz, quant à lui, a été traité devant ses domestiques d'âne. Voilà ce qu'a dit Beethoven. Et connaissant l'ampleur du génie qu'il avait devant lui, eh bien, il a accepté d'être ainsi traité. Beethoven lui dédiera en échange, en revanche, si je puis dire, la symphonie héroïque, la cinquième, la symphonie pastorale, donc la sixième, et plusieurs œuvres majeures. Vers la fin de sa vie, il y aura deux groupes d'amis autour de Beethoven. Un premier groupe animé par un de ses éditeurs qui s'appelle Steiner et qui comprend justement que Czerny et Schuppansick. Et puis un autre groupe qui se compose de gens qui ont rencontré le maître dans des auberges, qui ont rempli les cahiers de conversation par le truchement desquels aussi Beethoven communique avec autrui. Hein. Vous savez qu'il y a il a besoin d'écrire puisqu'il est devenu sourd. Et il va garder le contrôle de ces deux groupes d'amis et se considérer un petit peu comme le généralissimo du groupe Steiner. Voilà ce que nous disent ses amis. L'autre groupe, alors ce sont des fervents, hein. Ce sont des admirateurs. Beethoven s'est tiré parti de leur admiration. Il a fait de ces gens-là des personnes un peu à sa botte, il faut bien le dire. Un jour, il déclare « Je n'estime mes amis que par ce qu'ils peuvent faire pour moi ». C'est pas très sympathique hein, quand même, il faut bien le dire. Il y a un jeune violoniste qui par ailleurs est un étudiant en droit, il s'appelle Anton Schindler, qui va entrer dans le cercle des amis du maître aux alentours de 1820, devenir un petit peu son secrétaire, si vous voulez, son homme à tout faire, et qui supportera jusqu'à la fin de sa vie des emportements de plus en plus incontrôlables de Beethoven. Et ses insultes, « Misérable chien, objet dérisoire et abject !» hurle Beethoven qui, espérons-le, n'en pense rien. À la mort du maître, c'est lui, Schindler, qui va s'approprier pas mal de documents, dont les fameux cahiers de conversation, là, vous savez, ces cahiers par lesquels Beethoven échange avec les autres. 400 cahiers de conversation dont il détruira les deux tiers. Pourquoi a-t-il détruit tout ça? Oh, pas pour empêcher les historiens de travailler, non, simplement pour essayer de faire en sorte qu'on ne garde pas de Beethoven une image trop négative. Les cordes de soie, voilà que je parle comme Michel Glotz de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé avec ce legato légendaire par Herbert von Karajan dans ce troisième mouvement de la cinquième de Beethoven.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
L'instrumentation était ambitieuse hein, pour l'époque. Alors vous avez entendu des violons, des altos, des violoncelles, des contrebasses, bon, des cordes à l'infini bien sûr, mais aussi trois flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, trois bassons, deux cors, deux trompettes, trois trombones, deux timbales. C'est un grand orchestre qui est requis pour cette grande musique que donne Ludwig van Beethoven, dont il ne faudrait pas croire qu'il écrit tranquillement pour l'éternité. Hein. Il est constamment interrompu par de nouvelles commandes. Il doit répondre dans l'urgence à toutes sortes de sollicitations, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ses finances sont souvent très, très précaires et que les rapports qu'il entretient avec un certain nombre de Viennois sont si détestables qu'à un moment, il est obligé d'envisager, d'accepter la proposition du roi de Westphalie qui voulait faire de lui son maître de chapelle à Cassel. Le roi de Westphalie, c'est Jérôme Bonaparte, hein, c'est le tout petit frère du grand Napoléon. Vous imaginez bien que pour Beethoven, ça c'était un peu manger son chapeau tout de même. Il avait détesté l'idée que celui qu'il avait tant admiré sous les traits du général révolutionnaire Bonaparte se fasse lui-même empereur et se couronne dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n'avait pas accepté ça du tout. Il est entouré de ces grands aristocrates qui font l'Europe de l'époque, Beethoven, mais c'est un homme qui a une véritable idée politique. C'est un révolutionnaire, pas seulement en musique. Une fois terminé sa cinquième, qu'il a d'ailleurs dédiée tout de même au prince Lobkowitz et au comte Razumovsky, il va pouvoir souffler un peu. C'est ce qu'on se dit. Non, en fait, ce n'est pas ce qui se passe du tout.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, Les premières mesures de la cinquième se développent avec une espèce de simplicité absolument extraordinaire. C'est l'héroïsme en marche, si vous voulez. Beethoven bouscule les conventions, hein. Il n'y a plus l'équilibre classique, il y a des dissonances, il y a des contrastes, il s'amuse à nous confronter à des phrases qu'on n'attendait pas du tout. Il organise, il déploie tout un thème cyclique qu'on voit reparaître ici et là. Il faut assister à la représentation, enfin là, il faut entendre cette symphonie non seulement par ses enregistrements, mais il faut l'entendre en concert, d'où l'intérêt d'aller à certains concerts, n'est-ce pas, suivez mon regard, parce qu'il faut voir se déployer ce thème et l'entendre reparaître dans les différents endroits, dans les différentes régions de l'orchestre. La structure de l'andante ensuite est basée sur le principe du thème et des variations. Thème et variation avec deux éléments distincts. Il y en a un qui est présenté par les cordes et l'autre par les clarinettes et les bassons. C'était là encore une nouveauté incroyable, avec des possibilités évidemment à partir de là, puisque vous avez cette indépendance, si je puis dire, des deux thèmes, des possibilités de développement rythmique, harmonique assez extraordinaire. Et puis, il y a cette Allegro qui fait office un peu de scherzo avec trio, hein, c'est le nom donné à la partie du milieu d'un scherzo. Ça s'ouvre vraiment, on l'entend à peine, c'est pianissimo, et puis peut-être petit à petit ça s'élabore comme une fugue pour revenir au scherzo avec une complexité interne qui ne peut que vous provoquez une sorte de sourire quand vous entendez ça. Et puis il y a le final, bien sûr, cet allegro en ut majeur. Alors là, on utilise toute l'instrumentation possible. On entend pour la première fois depuis le début de l'œuvre la petite flûte, le contrebasson, les trois trombones. On se demande ce qu'ils faisaient là jusqu'ici. Eh bien, les voilà, avec l'emploi des nouveaux arrivants. C'est en quelque sorte ce qu'on fait dans ces caractéristiques ça, des formations de plein air d'habitude. Beethoven avait l'intention d'élargir l'impact de son final avec ces sonorités nouvelles qui arrivent un petit peu comme ça in extremis. Vous avez bien compris que cette cinquième symphonie, elle est à elle seule un univers, qu'on n'en finirait pas de la réentendre, de l'étudier, tout simplement de se laisser gagner par sa puissante harmonie et par son rythme inégalé.
Vous écoutez Radio Classique.
Le Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Riccardo Chailly pour ce final de la cinquième de Beethoven. Je vous rappelle que notre concert anniversaire des 40 ans, ce grand concert d'été, aura lieu au Théâtre des Champs-Élysées, présenté par Jean-Michel Duez, les 4 et 5 juillet prochains. Je ne sais pas si moi je serai sur le Tour de France, hélas, mais peut-être que Christian y sera.
Vous non plus. Je suis absent également.
Bonjour Christian.
Bonjour mon cher Franck. Vous parliez de Beethoven et des quelques vacheries. J'ai retrouvé une phrase s'adressant à Ferdinand Père, qui était le compositeur de l'opéra Léonore. Mm-hmm. Il lui a dit « J'aime votre opéra, j'aime bien votre opéra. Je pense que je vais le mettre en musique », lui avait-il dit. Et à propos de Beethoven, il disait sur Rossini « Rossini aurait fait un très bon compositeur si son maître lui avait plus botté les fesses. »
Et oui, pas toujours entièrement faux.
C'est un grand patron. Beethoven, donc, on va écouter. Alors, ce qui est intéressant, Francis Drezel s'est penché sur le sujet, vous vous en doutez, pour la programmation, et on s'aperçoit qu'il y a des compositeurs qui citent un petit peu, justement, on entend quelques notes, quelques réminiscences de la 5e symphonie de Beethoven. Ce sera le cas dans un instant avec un extrait du Tricorne, la suite numéro 1 de Manuel de Falla.
On a hâte.
Voilà. Alors, cet après-midi, c'est un scandale. De décoration. Ça paraît paradoxal comme ça, mais vous allez comprendre, et ça concerne un président de la République, c'est Jules Grévy.
Mais oui, ça se passe à l'Élysée, au rez-de-chaussée.
Non, alors, je me suis un petit peu penché sur le sujet. Écoutez cette histoire encore de Franck Ferrand, vous allez être plus que surpris.
Ah oui, c'est un...
Surtout, enfin, je n'en dis pas plus, mais les endroits où se passait la combinazione, en quelque sorte, des décorations.
Le trafic de Légion d'honneur.
Ah oui, formidable. Bon, à tout à l'heure, mon cher Franck, demain matin à 8h. moins 5 avec le point du jour, aux côtés de David Abiker, avec l'équipe de la matinale, et puis nous nous retrouverons bien sûr avec joie dès 9h. Excellente journée.
Bonne journée à vous.
Avec le temps qu'il fait, ça va être une... Comme le dit la publicité, ça va être une bonne journée. Je sens ça.